Nous allons continuer ce cours de critique. Alors je reprends pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière. On peut tout le temps reprendre la critique, c'est ce qui est avantageux. C'est ça, se reprend tout le temps. Parce que la critique, d'une certaine manière, n'a pas de commencement, vous comprenez? Alors on peut tout le temps la reprendre indéfiniment. La critique, qu'est-ce que ça veut dire, hein? On appelle ça critériologie, ou on l'appelle critique, c'est-à-dire philosophie réflexive sur la philosophie d'une façon générale et spécialement sur la métaphysique. On peut l'appeler critique dans le sens qu'elle nous donne crinein, discerner. Essayer de mettre les choses en ordre, c'est avant tout ça, au fond, le point de vue de la critique. C'est pas tellement critiquer les autres, c'est se critiquer soi-même. Et au fond, il y a deux parties dans la critique. Mais nous ne verrons qu'une seule partie. C'est suffisant, se critiquer soi-même. Il faut d'abord se critiquer pour critiquer les autres. Il faut d'abord prendre une conscience plus aiguë de ce que représente notre cheminement philosophique pour pouvoir ensuite mieux comprendre pourquoi notre cheminement se distingue des autres, comment il se distingue des autres et pourquoi on ne suit pas les autres. Il faut être conscient. Un philosophe qui vraiment fait de la philosophie et qui fait de la métaphysique doit pouvoir à chaque instant se critiquer. C'est-à-dire se justifier à l'égard de lui-même et à l'égard des autres. Il doit pouvoir chaque instant dire ce que je vous affirme, je l'affirme en fonction de telle ou telle chose que j'ai dit précédemment, et en définitive revenir toujours au point de départ de son commencement. Bon, la critique doit supprimer de plus en plus tous les a priori qui sont en nous. C'est ça, se critiquer. Enlever tous les a priori pour arriver progressivement à avoir une connaissance lucide de ce qu'on dit, de ce qu'on avance et de ce qu'on est capable de dire. Et donc, réflexion sur la connaissance. Je crois qu'il est facile de comprendre que si la critique implique cette réflexion, que la critique est quelque chose de toujours second. Elle n'est jamais première. Et au fond, c'est peut-être là le point de vue le plus délicat par rapport à Kant. Parce que Kant voudrait que la métaphysique soit édifiée sur la critique. Alors, dans quelle mesure pouvons-nous édifier une connaissance sur la critique? Ou est-ce que toute critique ne présuppose-t-elle pas une autre connaissance et permet à la première connaissance d'être lucide? Et là, il y a un point très important, puisque c'est évident que c'est Kant qui a mis très en lumière ce que c'était que la critique. Je crois que la critique a toujours existé au plan philosophique, mais elle n'a été mise en pleine lumière comme une partie spéciale de la philosophie qu'à partir de Kant. Alors on pourrait se demander si c'est légitime, ou si donner une telle ampleur à la critique, est-ce que ce n'est pas déjà entré dans le système de Kant? C'est vrai, ça se pose comme question. Quand vous regardez dans la philosophie d'Aristote, sa métaphysique et sa critique sont intimement liées. Sa logique et sa critique sont très liées. Il y a des quantités de parties dans la logique d'Aristote qui ne sont pas et qu'on ne considérerait pas comme de la logique aujourd'hui. Et qui sont des parties tout simplement d'une réflexion critique. Les parties les plus élaborées de la logique d'Aristote, c'est-à-dire le Périherménéias, le livre de l'interprétation, implique des éléments de critique. Ça, c'est bien évident. Ça implique des éléments de critique. C'est pas uniquement de la logique. C'est de la logique, c'est bien évident, dès qu'il est au niveau des propositions, mais quand il essaie de préciser, ça présuppose une critique. Dans la métaphysique d'Aristote, il y a des éléments de critique. Le livre Gamma, par exemple, quand Aristote dit la métaphysique, il existe une science du toon et on. Il existe une science de ce qui est en tant qu'être. Le toanéon d'Aristote. Je crois que c'est une affirmation critique. Ce n'est pas une affirmation métaphysique. Ce que la métaphysique cherche, elle découvre, mais elle ne dit pas à elle-même, il existe une science du toanéon. Mais c'est très important, quand vous affirmez quelque chose au plan philosophique, de savoir si ce que vous affirmez est au niveau métaphysique, au niveau critique, au niveau logique. Alors on va essayer, si vous voulez, de préciser ces différents niveaux. Ils existent, c'est un fait. On ne peut pas nier, je crois, qu'il existe ces différents plans. Et ces différents plans existent parce que la connaissance intellectuelle, la connaissance de l'intelligence, a cette possibilité d'avoir cette auto-lucidité. J'ai une auto-lucidité dans ma connaissance. C'est-à-dire, quand je connais, je suis conscient de connaître. Et j'ai donc une auto-lucidité par rapport à ma propre connaissance. Je suis conscient de connaître et je peux préciser que cette connaissance, elle provient d'une autre connaissance, ou cette connaissance, je ne sais pas, j'ai rêvé, j'ai eu une intuition. Je peux avoir une conscience d'avoir une intuition. Ce matin, en m'éveillant, je suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'anormal autour de moi, et j'ai eu une intuition. De temps en temps, on en a, au petit matin, ou au soir, ça dépend. Il y a des gens qui s'éveillent qu'au soir. À partir de 6 heures seulement, ils deviennent intelligents. Tandis qu'il y en a au contraire qui, à partir de 6 heures, c'est fini. Alors, vous voyez, les intuitions du matin, les intuitions du soir. Les anciens parlaient ça, les théologiens parlaient de la connaissance matutinale et la connaissance vespertinale. C'est pas tout à fait dans le même sens, mais ça fait rien. C'était matutinale et vespertinale. Alors vous pouvez avoir des intuitions matutinales et des intuitions vespertinales. N'est pas avoir des... Alors quand vous avez une intuition, c'est le propre de l'intuition, vous dites, ah, je sais pas d'où c'est venu. Ça m'est tombé dessus. Révélation. Il y a un ange qui m'a dit ça. Alors ça, c'est le mythe. Philosophique. C'est le mythe, c'est un ange. Parce qu'au plan philosophique, quand vous dites c'est un ange, ça prouve que c'est mythique. Au plan surnaturel, c'est différent. Mais vous êtes toujours entre les deux de savoir si c'est mythique ou si c'est réel. Et c'est vrai, le propre de l'intuition, c'est que ça vous tombe dessus. Vous ne savez pas d'où ça vient. Tandis qu'au contraire, le propre d'une connaissance scientifique, ah, vous savez très bien d'où ça vient. Et vous le justifiez. La connaissance intuitive, elle n'est pas au sens strict, elle n'est pas encore scientifique, elle le deviendra peut-être un jour, elle peut être très proche de parce que les intuitions peuvent conduire à une hypothèse, ça peut être très proche d'une hypothèse. Bon. Vous êtes capable, et c'est ça qui est très curieux dans la connaissance intellectuelle, vous êtes capable de pouvoir noter le caractère divers de vos connaissances intellectuelles. Et c'est bon de faire ça, c'est excellent. Comme premier devoir, je pourrais vous demander pendant une demi-heure, mettez par écrit toutes les modalités de vos connaissances intellectuelles. Il faut le faire une fois, ce n'est pas mauvais du tout. Et ça nous permet quand même, il y a des chambres multiples en nous. Il y a des étages différents. Alors il faut prendre conscience un peu de tous ces étages multiples. Est-ce que c'est de l'imagination ? Est-ce que c'est de l'imagination ? Est-ce que c'est de la sensibilité immédiate ? Quand vous prenez votre café le matin, est-ce que c'est imaginatif ? Ou est-ce que c'est réel ? Est-ce que le café que vous prenez, est-ce qu'il est imaginatif ou réel ? Le jour où vous n'arrivez plus à faire le discernement entre les deux, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. J'ai pris un café imaginatif ce matin. Alors, on va demander, est-ce que ça vous a nourri ? C'est ça l'effet. On va voir si ça vous a nourri ou pas nourri. Donc, il faut arriver, c'est pas si commode que ça, d'arriver à faire l'inventaire de toute la diversité des connaissances qui sont en nous. Raisonnement, induction. Alors, induction, vous mettez induction, oui, le mot, puis un gros point d'interrogation au-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai induit une fois dans ma vie ? J'espère. Pas sûr. J'avais pas sûr. Il y a des gens qui n'ont jamais induit dans leur vie. Il y en a qui l'ont fait et qui voient que l'induction, L'induction, c'est une démarche, c'est la démarche la plus intelligente. Je crois qu'on peut déduire sans avoir induit. C'est très curieux. On déduit mal, du reste. On déduit mal. On déduit approximativement. Déduire, c'est exploiter le capital. Donc, ce sont des spéculations. Exploiter le capital. Tandis qu'induire, c'est aller plus loin. C'est découvrir. C'est monter un étage. J'avais été dans cet étage supérieur. Alors aujourd'hui, il y a des ascenseurs. Est-ce que les ascenseurs suppriment l'induction ? On pourrait se poser la question. Y a-t-il un nouveau procédé qui permet de ne plus avoir d'induction ? Ce sera la fameuse dialectique. Alors, mettez entre parenthèses, la dialectique. Est-ce que la dialectique supprime les inductions? Est-ce qu'elle absorbe les inductions? C'est intéressant de se poser les questions, de savoir si au fond, ces démarches-là, parce que quand vous lisez quelqu'un, vous voyez bien, il y a une démarche dialectique, il y a des démarches inductives, il y a des démarches de raisonnement déductif. Il faut arriver à discerner ça. Voilà l'intérêt de la critique. Très simple. Si vous n'aviez que des intuitions, il n'y aurait pas de critique. Quelqu'un qui est purement intuitif n'aime pas la critique. N'aime pas la critique, parce qu'enfin, il ne voit pas ce que ça veut dire. Il est intuitif. Et l'intuition passe, et puis quelquefois elle ne repasse pas. C'est le propre de l'intuition, parce que ça passe. J'ai eu un éclair d'intelligence. J'arrive pas à saisir. Alors, vous voyez, c'est arrivé. C'est très curieux, ça. Il faut essayer de comprendre ce phénomène particulier de notre connaissance intellectuelle qui a cette capacité d'auto-lucidité, comme on dit aujourd'hui. Une auto-lucidité. Je suis lucide à ma connaissance. Quelquefois, c'est le brouillard. Je vois bien qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas très lucide. Et quelquefois, je suis très lucide. J'arrive à être très lucide à savoir ce que je pense, et ce que je pense, je peux en donner exactement les critères. Alors, il faut donc comprendre que la critique provient de ce fait qu'il y a une auto-lucidité de la vie de l'intelligence. Si je n'avais aucune lucidité, je n'aurais pas de critique. C'est pour ça que l'intuition n'est jamais une auto-lucidité absolue, vous voyez. C'est très curieux. Ça reste toujours un peu vague. Les intuitions, elles demandent d'être un peu plus précisées. Je dirais, c'est ce qu'on dira. J'ai cette intuition-là, mais essayez de préciser un peu, essayez de voir un peu plus clair. Voir si votre intuition repose sur quelque chose qui est juste, qui est fondamental. Donc, on voit l'importance et l'intérêt de la critique. Cette réflexion sur ma vie intellectuelle pour la rendre plus lucide. Elle provient de l'auto-lucidité et elle est faite pour être plus lucide. Et donc, si elle est plus lucide, elle va me permettre d'avoir moins d'erreurs. La plupart du temps, mes erreurs proviennent de confusion. Je confonds des domaines. Je passe d'un domaine à l'autre sans m'en apercevoir. C'est évident, c'est l'imagination qui fait ça. Je dis ça après ma critique. Hein, parce qu'avant, vous ne savez pas très bien pourquoi il y a des confusions en vous. Bien, vos confusions, vous allez voir, proviennent de votre domaine imaginatif. C'est l'imagination qui font les confusions. Et l'imagination est stimulée par les passions. Les passions ne sont pas le domaine de la connaissance, mais les passions liées à l'imagination font des tas de confusions. C'est très curieux. Quand vous êtes passionné, vous arrivez à faire des confusions énormes. Et ces confusions énormes, quand on est passionné, qui font des confusions énormes, font qu'on passe d'un domaine à l'autre sans s'en apercevoir. On ne s'en aperçoit pas du tout. On se réveille tout d'un coup dans un domaine tout à fait autre. On est parti de ce domaine-là, entre deux, il y a eu la passion. On va se demander si la passion est dialectique. Si elle nous fait faire passer comme ça d'un domaine à l'autre sans s'en apercevoir. Parce que la passion est liée à l'imagination, et l'imagination est une faculté de synthèse. Nos premières synthèses, c'est l'imagination. Vous voyez, tout ce domaine, hein, ça grouille. C'est très curieux. C'est très intéressant d'essayer de comprendre exactement où se situe la critique. Réflexion sur ma diversité, ma multiplicité de connaissances. J'ai des connaissances extrêmement multiples, extrêmement diverses. Il s'agit de comprendre un tout petit peu, mettre un peu de lumière dans ce brouillard intérieur. Et le brouillard, vous savez, quand on fait de la philosophie, ça dure assez longtemps. Parce que ça dure assez longtemps. Si vous restez 6 mois dans le brouillard, ne vous étonnez pas. Surtout à Fribourg. Ne vous étonnez pas. Il y a la Sarine qui passe. Alors, il y a pas mal de brouillard. Alors, et c'est vrai, ça a augmenté depuis qu'il y a on a fait l'étang de Bulle. Alors, ça a augmenté. Ça a augmenté les brouillards. Et les brouillards font que, de fait, notre connaissance n'a pas assez de lucidité. Les brouillards proviennent de l'état affectif qui est en nous. Cet état affectif qui fait que ça boue. On veut à tout prix atteindre la vérité. On veut à tout prix. Alors, on s'acharne à atteindre la vérité. Et alors, on voit moins. On voudrait que ce soit tout à fait lucide et ça reste dans le brouillard. C'est pas étonnant. Hein, la philosophie, au point de départ, étant donné que c'est difficile comme démarche, elle implique cette confusion. Cette confusion du début. Alors, il est bon d'essayer, au point de départ, de préciser ce que représente la démarche proprement philosophique. Vous voyez qu'il y aurait d'abord là une démarche philosophique. La démarche de réflexion critique, j'aime mieux dire réflexion critique que dire la critique tout court. J'aime mieux dire réflexion critique, on sait très bien quoi ça veut dire. La démarche logique, qui est à l'intérieur de la réflexion intérieure, c'est une réflexion la logique. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors il faut essayer de comprendre ces trois domaines qui se recoupent constamment. Se recoupe constamment. Matériellement, ça peut être la même réalité. Mais c'est justement là où jouent les lumières différentes et les aspects différents sous lesquels on peut regarder la même réalité. Vous allez voir. Bon, la philosophie. Si je suis dans une philosophie et non pas dans une idéologie, il faut bien arriver à discerner les deux. Qu'est-ce qui fait le discernement entre la philosophie et les idéologies? C'est la critique. Donc ce discernement va relever une réflexion. Il y a des quantités de philosophes qui n'ont pas fait la distinction entre philosophie et idéologie. Très cru. Des quantités de philosophes. Je crois que Maurice Clavel, dans le bon livre que je vous ai rappelé ce matin, ne fait pas la distinction entre idéologie et philosophie. Il ne veut plus de philosophie parce qu'il ne veut plus d'idéologie. Et alors, en ne voulant plus d'idéologie, il dit, il ne faut plus de philosophie. Et il y a la confusion entre idéologie et philosophie. C'est donc très important d'arriver à ce discernement. Et ce discernement se fait par la réflexion critique. Alors, évidemment, ce que je vous donne ici présuppose la critique. Donc, ça se fait petit à petit. Ce n'est pas un a priori. J'ai dit, c'est à l'intérieur, génétiquement, c'est à l'intérieur de la philosophie, de la critique, que je fais le discernement entre idéologie et philosophie. L'idéologie commence par les idées, comme il se doit. C'est le logos des idées. Et c'est à partir de là que va naître la dialectique. La dialectique naît à l'intérieur du processus des idées. C'est le processus des idées qui va m'amener la dialectique. C'est intéressant de situer la dialectique à l'intérieur même de ce processus des idées. La philosophie, au contraire, si j'ai une philosophie qui se veut philosophie, alors philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire philosophia. Donc, la philosophie, c'est l'ami de la sagesse. Je redonne aux mots leur signification primitive. C'est très actuel. N'est-ce pas? Quand un mot est fatigué, on reprend son étymologie première et on lui redonne sa vigueur en reprenant sa signification première. Eh bien, philosophie veut dire ami de la sagesse. Pourquoi? Parce que les premiers philosophes étaient des sages, au moins en Grèce. Ils étaient des sages. À un moment donné, ils ont été honteux de leur sagesse. Et alors, ils ont dit qu'on était des amis de la sagesse. Vous voyez, il y a toujours cela. On passe à une pudeur philosophique. Alors, la pudeur philosophique, ça touche la honte. Et c'est qu'on a peur de dire qu'on est dans la sagesse, alors on est dans l'amour de la sagesse. Et en dernier lieu, les amoureux de la sagesse n'iront même plus. Qui sont les amis de la sagesse, ils diront la philosophie, c'est une recherche. Merleau-Ponty. Voilà. Alors ça, c'est le troisième moment. Recherche de la sagesse, recherche tout pur. Recherche pour la recherche. Parce que quand c'est la recherche de la sagesse, c'est la recherche d'une fin. La sagesse, c'est ce qui nous donne notre finalité. Le sage, c'est celui qui sait découvrir sa finalité. Dans la mesure où vous avez découvert votre finalité, vous êtes sage. Et vous devenez capable d'aider les autres. Mais dans la mesure où vous n'avez pas découvert votre finalité, vous êtes en recherche. Alors vous pouvez être en recherche d'une quantité de choses et vous pouvez être en recherche de votre finalité. Et si vous êtes en recherche de votre finalité, vous êtes philosophe. C'est merveilleux d'être philosophe, oui. On est en recherche de sa finalité. Et c'est vrai, c'est ça le philosophe, c'est celui qui est en recherche de sa finalité. De la finalité de l'homme. Puisque je suis un homme, je suis en recherche de ma finalité et de ma finalité humaine. Mais au bout d'un certain temps, la Sophia sera tellement loin parce qu'on aura un scepticisme, alors on définira la philosophie une pure recherche. Vous voyez, la pure recherche. Ça, Merleau-Ponty. Les trois moments, c'est intéressant de voir les trois moments. C'est intéressant parce que ça, on voit très bien la fatigue. La fatigue qui fait que la finalité ne pouvant plus être atteinte, on la met entre parenthèses. Mais alors, lorsque la fin est entre parenthèses, on tombe dans la pure recherche. Alors évidemment, à ce moment-là, y aura-t-il une distinction entre philosophie et science? Ça deviendra très difficile à distinguer. Parce que le savant, il est en pure recherche. Je crois que c'est le propre du savant, d'être en pure recherche. J'aimerais mieux définir le savant, le chercheur, que le philosophe. Parce que le philosophe, c'est justement l'ami de la sagesse. Donc il n'est pas le pur chercheur. Il cherche, c'est évident. Mais il cherche, il sait ce qu'il cherche. Et c'est peut-être pour ça que dans le poème de Parménide, vous savez bien, nous le dirons tout à l'heure, mais c'est bien de le dire dès maintenant, dans le poème de Parménide, c'est ceux qui savent. Il y a un minimum de connaissances pour être philosophe. Il y a des connaissances ordinaires, des connaissances humaines. Vous ne pouvez pas mettre entre parenthèses toutes vos connaissances humaines. Autrement, vous ne feriez plus de la philosophie. C'est peut-être ça le propre de la philosophie. C'est peut-être le secret, vous voyez. Tandis que si vous mettez tout entre parenthèses, vous êtes toujours la recherche à l'état pur. Alors vous avez un a priori. Et vous commencez par un a priori. Alors vous êtes dans la recherche pure. C'est curieux, je dis ça, c'est parce que c'est intéressant toujours de voir comment une expression, la sagesse, la sophia, il faut au moins savoir ce mot grec. Hein? Sophia, c'est le premier mot grec. Hein? Sainte Sophie. C'est sophia, c'est la sagesse. Alors la sagesse, elle met l'homme en contact avec sa fin. Et elle comprend tous les moyens qui sont en vue de la fin. La philosophie, c'est devenu très vite Platon, pour mettre un mot. Platon, Aristote. Ils ne se disent plus ça, ils se disent philosophe. Et au fond, ça vient de Socrate. Socrate est le philosophe, parce qu'il recherche la fin de l'homme. Et c'est vrai que c'est un chercheur. Mais vous voyez, Merleau-Ponty prendra Socrate comme modèle, oubliant que c'est l'ami de la sagesse. Et il prendra directement, ça. Il y a un lien entre Merleau-Ponty et Socrate qui est impressionnant. Quand Merleau-Ponty se situe comme le nouveau Socrate, sans le dire, avec pudeur, hein, mais il le dit quand même, si on veut le comprendre. Alors Merleau-Ponty se dit le pur Socrate, le nouveau Socrate, parce qu'il est un chercheur. Et c'est vrai que Socrate est le chercheur de la fin de l'homme, mais il est l'ami de la sagesse. Et c'est à partir de Socrate qu'on a Socrate, Platon, Aristote, ça, les philosophes.
On peut pas nier que là, la philosophie prend toute sa signification. Puis alors, vous avez en dernier lieu la pure recherche, qui est liée du reste à l'idéologie. Au fond, l'idéologie et la philosophie, quand elles s'embrassent, il y a une rencontre entre l'idéologie et la philosophie, et à ce moment-là, c'est l'idéologie qui enveloppe la philosophie. Alors ça devient la pure recherche. C'est l'intervention de l'idéologie qui va contaminer la philosophie pour faire qu'elle sera la pure recherche. Et alors, en dernier lieu, la pureté de la recherche ne sera plus que l'interrogation. Ce ne sera même pas la recherche, ce sera l'interrogation. Et ce sera le moment principal de toute la vie de l'intelligence, c'est d'interroger. On n'a plus besoin de connaître, il suffit d'interroger. L'interrogation sera le moment principal de toute la pensée philosophique. C'est très, il y a un lien, vous voyez. La sagesse contemple, elle demande la contemplation. La philosophie va impliquer l'analyse sans abdiquer la contemplation. Elle sera tandis qu'au contraire, la pure recherche n'a plus de contemplation, elle n'a plus de repos. C'est la négation du repos. La négation du repos, il n'y a plus de repos. Il n'y a plus que la recherche. Et ceci, c'est la contamination de l'idéologie sur la philosophie. Vous voyez ? Ceci, c'est important d'essayer de comprendre un peu dans ce domaine qui est si difficile à saisir, de bien comprendre que la philosophie réaliste va être en quête de la réalité. Même Platon, il cherche la réalité, Platon. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un idéologue à ce point de vue-là. De fait, il donnera naissance aux idéologies, mais ce n'est pas un idéologue, parce que c'est tout à fait différent. La forme, en Platon, la forme en soi, c'est une la réalité, ce n'est pas une idée. Quand on dit les idées en soi, ça c'est une projection des idéologies là-dessus. Mais c'est beaucoup plus que... C'est quelque chose de beaucoup plus réaliste, même Platon, on verra cette année-ci. Donc, la philosophie cherche la réalité. La réalité dernière, c'est l'homme. Du moins, la réalité première pour le philosophe, c'est l'homme. Et la réalité dernière, ce sera l'être premier. Ce que nous appelons Dieu. Donc, le philosophe est toujours en contact avec la réalité. Comme la réalité est multiple et diverse, il y aura à l'intérieur même de la philosophie différents secteurs. Ça, nous verrons progressivement. À l'intérieur de la philosophie, il y a différents secteurs. Il y a la philosophie du travail, la philosophie de l'amitié, la philosophie politique, la philosophie de la matière ou du devenir, ce qu'on appelle la cosmologie d'une façon générale. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être mieux encore dire philosophie de la matière, encore que c'est très équivoque, mais c'est très difficile hein, aujourd'hui, c'est très très difficile à bien préciser. Mais il y a la philosophie du vivant, et puis la philosophie de l'être. La philosophie première, c'est la philosophie de l'être. Et c'est toujours, toujours autour de l'homme, la réalité humaine que se trouve et que se noue la philosophie. Et les diverses parties de la philosophie se nouent toujours autour du problème de l'homme. Les idéologies, au contraire, partent des idées et elles sont dans le développement de l'idée. Et elles considèrent que ces idées nous permettent de rejoindre la réalité. Ou tout simplement, on s'enferme dans les idées. Il y a différents aspects. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le point de départ, c'est les idées. Et vous avez là les diverses idéologies. Alors, comprenons bien. Quand il s'agit de la philosophie, qui est cette recherche de la réalité, cette recherche de la réalité implique une connaissance. Je connais la réalité, au moins. Je pense la connaître. Je la saisis, je la juge, j'y adhère. Donc, je suis orienté vers cette réalité. Cette connaissance, je peux réfléchir sur cette connaissance lorsqu'il s'agit d'une connaissance intellectuelle, y avoir cette auto-lucidité à l'égard de cette connaissance intellectuelle. Et quand j'ai cette lucidité à l'égard de cette connaissance intellectuelle, je réfléchis sur la connaissance intellectuelle. Sur la conscience que j'ai de cette connaissance intellectuelle. Voilà le problème de la conscience. J'ai conscience de connaître. Mais la conscience n'est pas la connaissance. C'est la propriété de la connaissance. J'ai conscience de connaître. J'ai conscience de connaître, c'est là où se situe l'auto-lucidité. S'il n'y avait pas d'auto-lucidité, il n'y aurait pas de conscience. Et c'est très curieux, la conscience. La conscience présuppose que, de fait, je suis au-delà du devenir et du mouvement. Parce que ça présuppose que le point de départ et le terme puissent être vus en même temps. C'est ça l'auto-lucidité. Oui. Quand vous allez de Fribourg à Paris, vous quittez Fribourg pour aller à Paris. Et Fribourg n'est pas dans Paris. Donc, il ne faut pas avoir d'auto-lucidité. Tandis que si Fribourg était dans Paris, vous pourriez avoir l'auto-lucidité. Vous ne quitteriez pas Fribourg tout en étant à Paris. Ça, vous pouvez le faire intentionnellement. Mais vous ne pouvez pas le faire réellement. Le mouvement physique empêche l'auto-lucidité. Le mouvement physique donne l'extériorité. La juxtaposition. Il y a des choses qui sont juxtaposées que je laisse de côté, puisque c'est quantitatif. La quantité implique une espèce d'extension et de juxtaposition. Dès que je suis au-delà de la quantité, dans un domaine de l'esprit, alors il peut y avoir cette auto-lucidité. C'est intéressant à voir comment naît la conscience. La conscience au sens le plus radical qui soit, cette auto-lucidité que j'ai dans la connaissance. Vous voyez, quand il y a un jeu d'image, prenez un jeu d'image, le cinéma, c'est un jeu d'image. Bon. Les premières images passent dans les dernières années. Moi, ça fait de la confusion. Mais tu as les mêmes images dans les images, tu sais, ce serait impossible. Et si vous avez 50 images en même temps, vous voyez ce que ça veut dire. Vous ne verriez plus rien du tout. Vous diriez, ah non, discernons. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un domaine imaginatif. Dans le domaine de la représentation. Le domaine de la représentation implique une extériorité. Alors, parce que ça implique une extériorité, je ne peux pas accumuler les différentes images. Donc, il n'y a pas d'auto-lucidité. Il n'y a pas une conscience absolue. Je saisis, mais immédiatement après, il y a une autre image. Une autre image. Le propre de la connaissance intellectuelle, c'est de faire qu'il n'y a plus d'extériorité. Et c'est pour ça qu'il y a auto-lucidité. Et c'est pour ça qu'il y a conscience. C'est très curieux. Ce serait très intéressant si on pouvait avoir le dialogue avec une vache pour savoir si elle peut avoir de l'auto-lucidité. Je prends la vache, je prends le singe, si vous aimez mieux. C'est un peu plus évolué, n'est-ce pas? Mais en fait, ce serait très intéressant de savoir s'il y a une auto-lucidité ou bien s'il y a simplement juxtaposition. Au point de vue psychologique, on saisit les juxtapositions. Et donc, on ne dit pas du tout qu'il y a auto-lucidité. Il y a simplement un lien, une relation avec une autre relation, etc. Un jeu de relations. Mais l'auto-lucidité et la conscience, c'est autre chose, c'est qualitativement autre chose. Et quand on dit que les singes parlent, il faut bien comprendre que c'est équivoque. Ils parlent un langage qui n'est pas la vraie parole. Équivoque au sens fort, c'est-à-dire tout à fait autre. Et ça a une totale signification différente. Ce n'est pas le même langage. C'est tout à fait autre. Le langage présuppose la signification. Et donc l'auto-lucidité et la conscience. Alors, il y a donc réflexion critique qui vient sur ces diverses connaissances pour comprendre leur diversité et leur unité. Donc la réflexion critique va porter sur la manière dont je connais, la diversité de mes connaissances et l'unité de mes connaissances. Je crois que la critique cherche toujours à saisir comment dans la diversité il y a une certaine unité. Ça me semble être la grande intention de la critique. ramener la diversité à l'unité. C'est l'unité qui commande, parce que c'est, si c'est au niveau de la connaissance, on est donc au niveau de ce qui est intelligible, ou ce qui est intelligé, si vous voulez, ça revient au même. Or, qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligé? C'est l'un. On verra ça petit à petit, hein, si ça présuppose toutes les connaissances. C'est l'un qui commande toute la réflexion critique. La réflexion critique est commandée par l'un. C'est pour ça que les philosophies de l'un sont les philosophies qui confondent la critique et la philosophie. Il y a une petite confusion qui se fait et qui nous montre tout de suite toutes les grandes philosophies de l'un. Plotin, c'est justement confusion entre la réflexion critique et la connaissance philosophique. Alors, il faudrait se poser la question, là, poser un nota bene. Peut-il y avoir une critique dans une idéologie? Est-ce que si je suis dans la pure idéologie, si je suis dans une, non plus dans la philosophie, mais dans une idéologie, puis-je encore parler de réflexion critique? Ou l'idéologie n'est-elle pas à elle-même sa réflexion critique? Ce que je crois. Donc la distinction entre critique et philosophie présuppose une philosophie réaliste. Dès que je suis en idéologie, l'idéologie implique à elle-même sa propre vie. C'est très intéressant à bien voir. Je crois, là, je vous le dis à titre d'intuition, mais une intuition déjà réfléchie. Hein. Je pourrais vous montrer que ce n'est pas une intuition à titre, mais c'est partant de l'idée, vous comprenez, partant de l'idée, vous êtes tout de suite au niveau réflexion de l'idée et de la conscience de l'idée. Et donc, vous restez bien dans une perspective critique. Alors, troisième moment qu'il faut discerner, donc vous avez un, philosophie, deux, réflexion critique, trois, logique. Et alors, il faudrait montrer quatre ensuite, le domaine des sciences. Il faudrait le domaine. Ici, je mets un et un prime, si vous voulez, parce que les idéologies se situent au niveau. Et puis, le domaine des sciences. Parce que c'est le domaine des sciences, c'est encore autre chose. Alors, la logique. La logique implique une réflexion. C'est sûr, elle implique une réflexion, la logique. La logique ne saisit pas en premier lieu ma connaissance. La logique, dans sa réflexion, saisit le fruit, ou plus exactement, ce qui provient de ma connaissance. C'est en ce sens-là qu'on dira, vous allez saisir, que la logique saisit l'universel. Et on dira que l'universel est un être de raison. Alors, il faut bien comprendre. Je pense à Pierre. Quand je pense à Pierre, est-ce que c'est une connaissance philosophique? C'est une connaissance habituelle, pratique, et puis c'est tout. Quand je pense à Pierre qui existe, et que j'essaie de comprendre que Pierre existe, que Pierre travaille, que Pierre... Ah, à ce moment-là, j'essaie de comprendre Pierre et toutes les richesses qui sont dans Pierre comme un homme qui a toutes ses richesses et toute la diversité de ses richesses. Alors à ce moment-là, je suis déjà dans une réflexion plus philosophique. Quand je pense à Pierre et je dis « Pierre pense » et je me mets à réfléchir, comment vais-je rejoindre la pensée de Pierre? Il pense et je pense. Si nous pensons tous les deux, nous allons essayer de nous rejoindre. Comment nous rejoindre si nous pensons tous les deux? Il n'y a qu'à vous poser le problème. C'est intéressant. Comment vous allez rejoindre? Vous dites « Pierre pense ». J'en suis sûr. Je pense, j'en suis encore plus sûr. Ça ne veut pas dire que je pense plus. Non, mais ça veut dire tout simplement que je suis plus sûr de penser encore que Pierre pense. Mais la manière dont je vois, je dis, il pense. C'est sûr, dès qu'on assiste, vous voyez, qu'on fait un cours, on voit tout de suite ceux qui pensent et ceux qui ne pensent pas. Non, ça se voit tout de suite. Alors, Pierre pense, bon, et normalement, celui qui fait le cours pense aussi. Alors, il est encore plus certain de penser. Alors, je peux me demander la question, comment vais-je rejoindre la pensée de Pierre? C'est un très, très curieux problème, ça. Si Pierre fait des mathématiques dans son coin, et que moi je fais de la philosophie dans mon autre coin, est-ce que je rejoins la pensée de Pierre? C'est intéressant de savoir. Est-ce que je rejoins la pensée de Pierre? Vous voyez, je regarde quelqu'un qui fait des mathématiques, je lis un livre mathématique. Pierre fait des mathématiques et il écrit ce qu'il pense. Il écrit ce qu'il a pensé. Et puis moi, je vais lire ce livre mathématique en philosophe. Est-ce que je vais rejoindre sa pensée? Non. Je ne rejoindrai pas sa pensée. Pour rejoindre sa pensée, il faut penser la même chose que lui. Alors à ce moment-là, on se rencontre. Et c'est curieux. Au fond, on se rencontre dans le même objet pensé, dans la même réalité pensée. Si on pense à la même réalité, on se rencontre. Si on ne pense pas du tout à la même réalité, selon des méthodes tout à fait différentes, et on est à des niveaux différents, c'est comme deux avions quand ils sont à 10 000 mètres et 5 000 mètres. Ils se rencontrent jamais, sauf à la descente. S'ils descendent en même temps, alors à ce moment-là, il y aura peut-être un petit danger. Et c'est pour ça qu'on avertira et qu'ils ne doivent pas descendre en même temps. Mais s'ils restent toujours à la même hauteur, ils ne se rencontrent jamais. L'un est dans la pensée mathématique, je ne dis pas 5000 à la pensée mathématique et 10 000 à la pensée philosophique. Il faut faire attention, n'est-ce pas? Mais mettez en parallèle, ils sont en parallèle. Pensée mathématique, pensée philosophique, ils sont en parallèle, ils pensent tout le temps, tout le temps. Et ils sont fidèles à leur pensée, ils ne se rencontrent pas. Pour se rencontrer, il faut qu'ils pensent à la même réalité. Et même, ils peuvent penser à la même réalité, matériellement, la même réalité. Il faut que ce soit encore sous le même aspect. Alors à ce moment-là, ils peuvent se rencontrer et ils peuvent se comprendre. Ce qui fait que c'est difficile le dialogue, vous voyez, avec les philosophes. Je suis au niveau de la pensée philosophie réaliste. Je lis un idéologue. Alors, vous voyez, est-ce qu'on se rencontre? Non. Il est dans son idéologie et moi je suis dans ma philosophie. Alors je peux le critiquer, je peux l'arroser de mon poids. N'est-ce pas? Je peux le critiquer, je peux critiquer cet idéologue, mais je ne le rencontre pas. Parce que je suis au-dessus de lui. Moi. Je dis que je suis au-dessus de lui. N'est-ce pas? Et lui dira qu'il est au-dessus de moi. On ne se rencontrera pas. Parce qu'on est à des niveaux différents. Pour pouvoir se rencontrer, il faut penser la même réalité et sous le même aspect. Alors à ce moment-là, on se rencontre. Et on peut dialoguer. Oui. C'est important, les conditions du dialogue. Autrement, vous serez, comme la plupart du temps dans les gens qui dialoguent, l'un est au niveau philosophique, l'autre est au niveau théologique, le troisième est au niveau idéologique, le quatrième est au niveau scientifique, le cinquième est au niveau logique. Je vous affirme que ça fait un dialogue extraordinaire. Ils peuvent parler une heure chacun, ne se rencontrent jamais. Et au bout du dialogue d'une heure, chacun, n'est-ce pas, ils ne savent même pas s'ils se sont rencontrés. Et s'ils ont parlé de la même réalité. C'est extraordinaire le domaine de la pensée. Et c'est ça que la critique doit nous faire comprendre. Que si on est sur une rame, on ne se rencontrera pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique va être comme une super critique, ou une super réflexion, disons. C'est non seulement la réflexion sur mon acte de pensée, mais c'est la réflexion sur la manière dont je transforme la réalité quand je pense. Et je regarde ce que ma pensée secrète quand elle pense. Je pense l'universel. L'universel n'est pas une réalité que vous allez rencontrer. Jamais. La logique pense l'universel. L'universel, c'est ce que l'intelligence fait quand elle connaît. C'est ce que l'intelligence crée. C'est le propre de la création humaine, l'universel. L'homme crée l'universel. Pas Dieu. Dieu crée des êtres concrets. et l'homme crée l'universel. Alors l'universel, je le saisis comme ce qui, à l'intérieur même de ma connaissance, est le produit de ma pensée. Nous ferons un cours de logique à partir de janvier, je crois. Alors, on aura un petit cours de logique. Alors vous verrez mieux à ce moment-là la logique et la critique, parce que vous seriez déjà un peu avancé en critique et vous comprendrez mieux ce que c'est que la logique. Regardez l'universel. C'est pas si commode que ça. Parce que toutes les réalités que vous expérimentez, c'est pas l'universel. Donc vous voyez l'importance de la critique, parce que c'est de mettre un peu d'ordre et de lumière dans la très grande diversité de nos connaissances. Et d'arriver à connaître les divers niveaux de votre pensée intellectuelle. Votre pensée intellectuelle n'est pas toujours au même niveau. Il y a des vitesses différentes. Alors, il faut connaître l'embrayage de ces vitesses différentes. Quelquefois, c'est la vitesse Hercule, c'est la logique. Dans un projecteur, vous regardez par derrière. C'est ça, vous regardez par derrière, ce qui a été le fruit de la pensée. Puis vous avez aussi la pensée réflexe de la connaissance elle-même, au-delà de la logique, au-delà de l'universel. Puis vous avez la pensée directe. Alors vous allez dire, ce qui est le plus facile, c'est la philosophie. Pas nécessairement. Critique et logique sont toujours indispensables. Logique, un peu moins, mais quand même.
Alors, si vous avez pas fait ça.